Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter Studio Tamani. Voici les titres. L'application de l'article 39 du statut des enseignants, l'ouverture d'une enquête sur la répression de la manifestation des 10, 11 et 12 juillet dernier et la mise en place d'un nouveau gouvernement, tels sont entre autres les priorités du président de la République Ibeka. L'annonce a été faite hier au cours du Conseil des ministres. La maladie à coronavirus a beaucoup impacté sur le secteur culturel au Mali. Selon les acteurs culturels, ils demandent au gouvernement la reprise immédiate des activités culturelles. Le dossier d'aujourd'hui s'intéresse au journalisme et au blogging. Qui est journaliste, qui est blogueur? Élément de réponse dans ce journal qui vous est présenté par Hamsi Toutouré à la mise en onde Philly Dambélé. Application de l'article 39 du statut des enseignants, ouverture d'une enquête sur la répression de la manifestation des 10, 11 et 12 juillet dernier, la mise en place d'un nouveau gouvernement, etc. Le président Ibeka fixe ses priorités au premier ministre Boubou Cissé. Il l'a fait savoir hier au cours du Conseil des ministres du mini-gouvernement. Le chef de l'État assigne cette feuille de route au moment où le M5-RFP, qui exige sa démission, appelle à un nouveau rassemblement le 11 août prochain. Les détails avec Arkia Touré.
Ce premier conseil des ministres a résumé en 5 axes majeurs la feuille de route du gouvernement restreint du docteur Boubou Cissé. Première instruction du chef de l'État, travailler au retour de la normalité, de la concorde et de la paix. Le président de la République a aussi demandé l'ouverture immédiate d'une enquête minutieuse et crédible sur les pertes en vies humaines à Bamako, Kai et Sikasso survenues lors des dernières manifestations. Ces investigations doivent être suivis de la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes de la crise sociopolitique ou leur ayant droit après une étude de la situation. Cette décision avait été réclamée plusieurs fois par les leaders du M5-RFP. Ces enquêtes concernent également les atteintes aux biens publics et privés. La nouvelle équipe doit aussi travailler à la création des conditions favorables à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ibeka a aussi instruit la mobilisation des fonds pour l'application immédiate et complète de l'article 39 du statut des enseignants. Cette feuille de route du chef de l'État intervient alors que la crise sociopolitique reste tendue. Le M5 qui a rejeté les résolutions de la CEDEAO demande toujours sa démission.
Sur le même sujet, les leaders du M5-RFP saluent la décision d'indemnisation des victimes des dernières manifestations. Cependant, ils pensent qu'elle ne résout nullement la question car l'instigateur de ces tueries n'a toujours pas été identifié. Cheikh Oumar Sissoko est un ancien ministre de la Culture et membre du M5-RFP. Il est joint au téléphone par Ali Cissé.
La décision qui a été prise de répondre aux besoins des parents des victimes est une décision salutaire. L'État que le gouvernement représente a le devoir, l'obligation de venir en aide à la famille et des victimes. C'est une obligation, un devoir. C'est le devoir social. Maintenant, il reste le droit. Quels sont ceux qui ont tiré à balles réelles? Est-ce qu'une enquête a été ouverte? Est-ce qu'une réponse a été donnée à la lettre du Premier ministre demandant qui a autorisé la sortie des forçats? Les forçats sont commandés par des gens. Des réponses doivent être données et des réponses rapides peuvent être données à cette lettre-là et des décisions doivent être prises pour mettre les personnes qui ont exécuté des gens soient mises à la disposition de la justice. Quelle enquête diligente donc on peut encore commander? Je doute fort qu'il puisse y avoir une suite à cette enquête-là.
Retrouvez ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. La MINUSMA et l'Amnesty International dénoncent des violations des droits de l'homme imputables aux forces de sécurité maliennes et burkinabées. C'est ce qui ressort dans les rapports de ces deux organisations internationales publiés cette semaine. Si la mission onusienne accuse les FAMA d'avoir causé 94 exactions extrajudiciaires dans les régions de Mopti et Ségou, Amnesty International indexe de son côté les forces de sécurité de tir à balles réelles contre les manifestants du M5-RFP les 10, 11 et 12 juillet dernier. Les détails avec Imirana Kilumaiga.
Dans son rapport, la mission onusienne a documenté 632 cas de violations de droits humains au deuxième semestre, dont 126 sont imputés aux forces de défense et de sécurité maliennes. Selon le document, il s'agit de meurtres, exécutions sommaires, enlèvements, viols, atteintes à l'intégrité physique, intimidations et menaces. Le rapport précise que sur les 126 accusations imputées à l'armée malienne, 94 cas d'exécutions sommaires et arbitraires ont été enregistrés entre le 1er avril et le 30 juin dernier. L'aménagement pointe du doigt les forces armées maliennes d'associations avec des groupes d'autodéfense Dogon pour commettre des atrocités dans des villages Peul. Selon la mission onusienne, l'exemple palpable est celui de l'attaque du village de Binedama le 5 juin dernier. Au cours de cet assaut, un convoi militaire d'une trentaine de véhicules de l'armée accompagné de chasseurs traditionnels ont tué 37 civils, explique le rapport. L'armée burkinabé a aussi été accusée de 50 exécutions extrajudiciaires sur le territoire malien pendant la même période. De son côté, l'Amnesty International accuse les forces de sécurité maliennes de tirs à balles sur les manifestants des 10, 11 et 12 juillet dernier, tuant une dizaine de ces personnes. Des gardes du corps du président de la Cour constitutionnelle, l'unité spéciale antiterroriste, ont été identifiés comme les auteurs des tueries, explique le rapport. L'organisation affirme avoir réuni des photos et des vidéos à titre de preuve des blessures subies par des manifestants et montrant les impacts des balles sur des bâtiments civils.
Sur un autre sujet, notre dossier d'aujourd'hui s'intéresse au journalisme et au blogging. Les deux domaines ont bien des points de convergence, mais ils sont différents d'une part et complémentaires d'autre part. Quelle est la différence entre ces deux métiers? Sont-ils régulés et contrôlés au Mali? Est-ce possible d'élier les deux? La réponse dans ce reportage de Boubacar Labaskoné.
Le journalisme et le blogging ont certes pour point commun informer, mais ils sont différents, nous explique Diomansi Bomboté, journaliste à la retraite, professeur d'université.
Le blog n'est pas réservé aux seuls journalistes. Toute personne qui estime qu'il a des messages à partager peut estimer créer un espace. Le journaliste, c'est quelqu'un qui exerce la profession de journaliste. La différence entre les deux, c'est que le journalisme exige une formation professionnelle. Le blogging, c'est selon son inspiration. Un journaliste professionnel peut avoir un blog, mais quelqu'un qui n'a pas fait une formation journalistique peut aussi avoir un blog. Tout dépendra du contenu. Il ne faut pas mélanger ça avec des activités de journaliste professionnel dans une entreprise de presse.
Qu'on soit blogueur ou journaliste, véhiculer une information obéit forcément à un certain nombre de critères, notamment le respect de l'éthique et de la déontologie, reconnaissent des spécialistes de ces domaines. Les responsables du ministère de la Communication estiment que des efforts ont été consentis dans la régulation du secteur de l'information. Toutefois, le chargé de mission Alassane Djombele reconnaît que beaucoup reste à faire.
Tout ce monde qui travaille dans la presse en ligne, aujourd'hui, ils sont très nombreux. On l'a constaté. On a une structure qu'on appelle Appel Mali qui s'occupe de tous ceux qui sont sur la presse en ligne. Il y a également les blogueurs, ceux qui ont des plateformes qui offrent justement un service pour la diffusion de l'information en ligne. Et on les a intégrés à travers justement leur fêtière pour organiser le secteur.
Rappelons aussi qu'il y a des journalistes blogueurs au Mali. Selon eux, il est possible de faire du journalisme et du blogging sans que l'un n'ait un impact sur l'autre.
Les conséquences de la maladie à coronavirus sont énormes sur le secteur de la culture au Mali. C'est du moins ce que déclarent les acteurs culturels. Selon eux, les mesures préventives prises par les autorités en mars dernier continuent de frapper de plein fouet le domaine de la culture dans le pays. Ils demandent au gouvernement la reprise immédiate des activités culturelles. Quant aux autorités, elles promettent que des dispositions seront prises incessamment pour la réouverture des infrastructures culturelle. Reportage Moussa Malé Sissoko.
Ils sont réalisateurs, producteurs, artistes, metteurs en scène, ingénieurs du son et autres à exprimer leur désarroi aujourd'hui. Selon eux, les concerts, festivals, spectacles ont tous été suspendus pour cause de la COVID-19. Pour le président de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, les opérateurs culturels et les artistes n'ont pas reçu de l'accompagnement de l'État pour surmonter cette période difficile. Alioune Ifrandiaï.
Ce n'est pas bon pour le moral de personnes supposées travailler à produire des œuvres culturelle. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer à l'État. Il nous faut un mécanisme d'accompagnement pour que le secteur ne se désagrège encore. Ça, on a décidé de demander à l'État de lever tout de suite les mesures de restriction pour nous permettre de travailler.
Il faut une révision générale de la politique culturelle au Mali, plaide Alioune Ifrandiaï, président de la FEDAMA.
Nous travaillons à repenser la politique culturelle du pays, tout qui est marché intérieur de la culture. Quelque chose qu'on est en train de travailler à faire comprendre aux autorités que la culture, ce n'est pas que du fond. alors elle est très très importante dans la construction d'une société moderne.
Le secrétaire général du ministère de la Culture se dit conscient des difficultés que traversent les acteurs du secteur. Yamoussa Fane annonce que des efforts sont en cours pour la réouverture des infrastructures culturelles.
On a mis en place un comité de réflexion, une réflexion sur l'impact réellement de la crise sur le secteur, qui a élaboré un document que nous avions transmis au premier ministre chef de gouvernement. Nous avions également demandé l'avis du comité scientifique. Ce travail aussi a été fait. Donc nous sommes réellement dans de bonnes dispositions pour au moins que les activités culturelles reprennent.
Par ailleurs, le département de la culture, par la voix de son secrétaire général, dément la lettre circulaire publiée sur les réseaux sociaux, ordonnant la reprise des activités culturelles dans le pays.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Nous recevons à l'instant Mouamadou Touré pour le Grand Dialogue. Bonsoir Mouamadou.
Bonsoir Amsetou Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Crise sociopolitique, c'est de ça qu'on va parler au cours du Forum de la presse de ce soir. Et nos invités sont Abdrahamane Keïta du journal Le Témoin, Amadou Oumar Diallo, journaliste, et Badou Escoba du journal Carrefour.
Merci Mouamadou et bon débat. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Amsetou Touré à la mise en onde Philly Dambé. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine.